Radio Prague, les informations.
Václav Klaus poursuit les pourparlers sur les issues de l'impasse post-électorale. Les chrétiens démocrates et les Verts continuent à refuser un cabinet toléré par les communistes. Conférence sur la résistance juive. Le président Václav Klaus a reçu au château de Prague le représentant du Parti civique démocrate ODS pour s'entretenir sur les issues de l'impasse post-électorale en République tchèque. Václav Klaus s'est déclaré favorable à la conclusion d'un accord des partis politiques sur les élections anticipées ou sur un gouvernement stable. Il a refusé les opinions selon lesquelles il serait partisan de la grande coalition du Parti civique démocrate et de la social-démocratie. Les représentants du Parti chrétien démocrate KDU-CSL et du Parti des Verts ont confirmé leur décision de ne pas participer à un gouvernement qui s'appuierait sur la tolérance du Parti communiste de Bohême et de Moravie. Selon le chef du Parti des Verts, Martin Bursik, un tel gouvernement ne pourrait réaliser son programme qu'au prix des concessions au Parti communiste. Une conférence internationale sur le thème « Les Juifs au combat et dans la résistance » aura lieu à Prague les 17 et 18 octobre. Elle sera organisée par l'Institut d'Histoire de l'Académie des sciences tchèques. Le prix de la bière de Plzeň augmentera en Tchéquie à partir du mois de novembre. Un demi-litre de Pilsner Urquell sera plus cher de 1,4 couronnes, quelques 0,05 euros. La bière Gambrinus et Radegast seront plus chères d'une couronne à 60 LR. Les autres producteurs tchèques de la bière n'envisagent pas pour le moment de hausser les prix. La baisse des prix du gaz naturel en République tchèque, qui ont baissé le 1er octobre dernier de 5,5%, pourrait continuer. Selon le secrétaire général de l'Union tchèque du gaz, Josef Kastl, au cas où les tendances à la baisse sur le marché pétrolier se poursuivraient, cela pourrait amener aussi une légère diminution du prix du gaz au début de l'année prochaine. Le festival Chopin, qui a lieu tous les ans dans la ville d'Au Marianské Lázně Marienbad en Bohême de l'Ouest, a trouvé inissus des problèmes financiers qui mettaient en cause son existence. Selon le président du festival, Ivan Klansky, l'association Frédéric Chopin qui organisait cette manifestation a réussi à rassembler les moyens nécessaires pour les 5 prochaines éditions du festival. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Hedvika, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera clair après la dissipation des brumes matinales et les températures diurnes se situeront entre 11 et 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Merci d'écouter Radio Prague. À la une de l'actualité, le projet de la formation d'une grande coalition gouvernementale en République tchèque proposé par le chef du parti social-démocrate Jiří Paroubek. Une association tchèque d'aide aux personnes âgées, VI90, s'est jointe à un réseau international d'ONG qui soutiennent les seniors dans les pays en voie de développement. Nous vous en dirons plus avant de donner la parole à un jeune français qui vous fera découvrir la deuxième ville tchèque, Brno. Quatre jours après la démission du gouvernement de droite formé par Mirek Topolánek, chef du Parti civique démocrate, ODS, et plus de quatre mois après la tenue des élections législatives, les présidents des deux partis tchèques les plus forts étaient invités dimanche d'un duel télévisé. Le premier ministre sortant s'est donc retrouvé face à Jiří Paroubek, leader de la social-démocratie, ČSSD, deuxième formation après les législatives de juin. Si jusqu'à présent les deux camps qui ne disposent pas d'une majorité clairs au Parlement ont fait preuve d'une incapacité désespérante à dialoguer et donc à résoudre la crise actuelle, Jiří Paroubek a avancé lors du débat l'hypothèse d'un scénario surprise, celui de la formation d'une grande coalition composée de l'ODS et du ČSSD, à laquelle le chef des sociaux-démocrates ne participerait pas. Ce gouvernement pourrait être nommé pour une période de 2 ans et conduirait le pays à des élections anticipées. Une solution immédiatement rejetée par beaucoup, dont Pavel Bém, maire de Prague et figure très en vue de l'ODS. Le chef du parti, Mirek Topolánek, s'y est également opposé, soucieux, je cite, de ne pas trahir les électeurs de l'ODS. Il a tout de même déclaré.
Bien sûr que nous allons négocier, nous le faisons depuis le début. Le public ne mérite pas que l'état actuel des choses se poursuive. Étant donné que notre cabinet ne peut pas entreprendre de démarches importantes, je pense que le prochain gouvernement devrait être nommé le plus tôt possible.
Jiří Paroubek avance d'autres propositions encore, un gouvernement composé des sociodémocrates, des chrétiens-démocrates, du KDU-CSL et des Verts, un cabinet de technocrates, un gouvernement minoritaire du CSSD ou encore une coalition de tous les partis parlementaires à l'exception des communistes, une éventualité à laquelle l'ODS serait favorable. Rappelons dans ce contexte le dernier geste anticonstitutionnel, selon certains, du président Václav Klaus, chargé de nommer un nouveau premier ministre. Vendredi, il s'est prononcé en faveur d'un accord entre les partis politiques qui assurerait au futur cabinet un large soutien du Parlement. Une déception notamment pour Jiří Paroubek qui espérait pouvoir former à son tour un cabinet appuyé par 101 des 200 députés siégeant à la Chambre. Ce n'est qu'après les élections municipales et sénatoriales partielles, les 20 à 21 octobre, que le président s'exprimera et désignera un nouveau premier ministre. Un récent sondage de l'agence Factum Invenio place l'ODS en première position des préférences, avec presque 36% des électeurs potentiels, suivi du CSSD, cité par 27% des personnes interrogées. HelpAge International est un réseau international d'organisations non gouvernementales spécialisées dans l'aide aux personnes âgées. En République tchèque, l'une des organisations pragoises les plus actives dans le domaine s'appelle Vie 90, Život 90, une association qui est aujourd'hui sollicitée pour aider les personnes âgées dans les pays en voie de développement. Reportage Alexis Rosenzweig.
On est conscient que les nouveaux pays membres de l'Union européenne doivent maintenant s'adapter à leur rôle de bailleurs de fonds, ce qui ne va pas sans difficulté. Ils ont besoin d'entendre des expériences d'autre part du monde. Ils ont besoin de trouver des partenaires aussi. Donc c'est tout un apprentissage qui doit avoir lieu et ils ont aussi leur propre expérience à partager.
Adriana Oprescu est responsable du bureau bruxellois du réseau HelpAge International.
Et c'est là un côté probablement assez unique du projet. On s'est tourné vers des organisations qui travaillent déjà avec des personnes âgées, mais pour des problèmes de politique interne et des questions internes, pour voir justement quelles sont les expériences qu'on peut partager dans la compréhension de la problématique du vieillissement et de la participation des personnes âgées dans la vie de leur société. Et on a voulu aussi créer des liens directs entre les personnes âgées d'Afrique et les personnes âgées de ces pays.
Des liens directs, Koldřich Staněk, responsable de l'association tchèque Život 90, est fier de pouvoir nouer. Son association, très active à Prague, est la seule de la région, avec la philanthropie slovène, à faire partie du réseau international.
Tento projekt se týká spolupráce organizací, které pracují se seniory a
Le projet porte sur la coopération entre différentes organisations. Dans les nouveaux pays membres de l'Union européenne, le réseau HelpAge International a choisi deux associations, une en République tchèque et une autre en Slovénie, pour promouvoir la lutte pour les droits des seniors en Afrique, pour faire en sorte que les projets en partie subventionnés par des fonds européens ne soient pas destinés uniquement aux enfants ou aux malades, par exemple, mais aussi aux personnes âgées dans les pays africains.
HIV/AIDS, ale aby směřoval i na pomoc těm starším lidem právě v afrických zemích.
Et parmi les Africains venus sensibiliser les Tchèques au problème des personnes âgées sur le continent noir, Erina Baingana de l'association ougandaise Reach the Aged. Elle explique notamment que dans son pays, plus d'un million d'orphelins sont à la charge de leurs grands-parents qui ont le plus grand mal à faire face.
Poverty among the old people.
La pauvreté des personnes âgées, du fait, entre autres, de la destruction des sociétés et cultures traditionnelles, est un problème crucial. Avec les problèmes socio-économiques, les plus âgés restent seuls et sans aide au village. C'est ce qu'explique Erina Baingana. Selon elle, il faut que les gouvernements africains prennent conscience du fait qu'il faut aider les générations les plus anciennes pour leur rendre leur dignité. Un travail de lobbying intensif, comme elle dit elle-même, et un travail de communication pour expliquer dans les pays développés que l'aide au développement doit être aussi orientée vers les plus vieux.
Loď, nadá. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou hezké, a chytrá. Kam se hrabou děvčata, z Prahy Plzně Ústí, kdo má trochu Filipa, do Brna se pustí.
Faire une partie de leurs études en Tchéquie semble avoir un certain attrait pour les étudiants français. Et même s'ils veulent se rendre surtout à Prague, pourquoi éviter Brno? Voilà ce que s'est dit Adelin Royer, étudiant et actuellement stagiaire à Radio Prague. Il vous racontera son expérience et les réactions que sa décision a provoquées.
Un beau jour, il a fallu annoncer que je partais un mois à Brno. Comment? Tu peux répéter? Invariablement, ce fut la première réaction. Il fallait alors épeler V-R-N-O et expliquer que, en dépit de son nom imprononçable, cette ville existait non seulement bel et bien, mais se trouvait au cœur même de l'Europe, en République tchèque, quelque part entre Prague, Bratislava et Vienne. Les regards n'en semblaient pas moins chargés au pire de suspicion, au mieux d'incompréhension sincère et compatissante. La République tchèque, pourquoi pas? Tout le monde peut succomber à ce genre d'étrange passion, mais pourquoi pas Prague? Que pouvais-je donc dire pour les rassurer? Une référence historique qui prouverait que BRNO n'est pas sur Mars? Eureka! En fait, c'est à côté d'Austerlitz. À l'évocation de cette fameuse page de l'histoire de France, les yeux de mes interlocuteurs se mettaient à briller. Et je pouvais en rajouter, citer les noms de l'écrivain Milan Kundera, du compositeur Leoš Janáček, du moine Gregor Mendel, qui a découvert les lois de la génétique en cultivant patiemment et avec amour des petits pois dans le jardin de son abbaye, et affirmé avec aplomb qu'ils étaient nés à Brno, où ils avaient exercé leur activité. Face à une telle avalanche de références, on ne peut qu'imaginer une merveilleuse cité peuplée de génies ou de fantômes de génies. Je priais cependant pour que personne ne connaisse la citation de Kundera qui affirme, dans l'incipit de la plaisanterie, que le passé militaire de sa ville natale l'avait marqué d'une irrévocable laideur. De fait, je savais que, poursuivie par une mauvaise réputation, qu'elle doit en partie au sombre passé de sa forteresse de Spielberg, prison des nations, tantôt sous le joug austro-hongrois, tantôt sous le joug nazi, Brno ne faisait pas partie des destinations les plus prisées en République tchèque. De plus, je ne connaissais de la République tchèque que l'hypercentre de Prague et le tableau apocalyptique de ce pays de l'Est que mon entourage m'avait dépeint. Aussi, fin juillet, quand l'heure du départ sonna, étais-je vaguement inquiet. Les affreuses barres d'immeubles, panélaquis, qui entourent la ville, n'étaient pas de nature à me rassurer. Pourtant, quand je suis descendu du bus, j'ai tout de suite été frappé par l'animation du centre-ville et par l'élégance de ces grandes avenues qui, toute proportion gardée, ne sont pas sans rappeler le ring viennois. 400 000 habitants, de nombreuses rues piétonnes, des dizaines de centres commerciaux, une magnifique place du marché spectaculairement dominée par la cathédrale, Brno, bien qu'elle ne brille pas par sa cohérence architecturale, n'est définitivement pas la ville de la grisaille que les Tchèques eux-mêmes se plaisent à décrire. En réalité, la deuxième plus grande ville de la République tchèque est, comme l'aiment à dire les Moraves, une deuxième capitale, leur capitale. Pour vous en convaincre, essayez de trouver un livre sur Prague dans une librairie de la ville. Demandez tout simplement à un Morave ce qu'il pense de la capitale nationale ou observez sa réaction lorsque vous évoquez le travail au lieu d'utiliser l'expression locale de Chalina.
La suite du récit mardi dans Fais événements en République tchèque place maintenant au sport sur Radio Prague.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, c'est la boxe qui sera à l'honneur dans cette nouvelle rubrique. Mardi dernier, les deux meilleurs boxeurs professionnels tchèques actuels, Rudolf Kraj et Lukáš Konečný, étaient en effet en vedette à Prague. Vainqueur par arrêt de l'arbitre dans la 12e reprise, Rudolf Kraj, vice-champion olympique aux Jeux de Sydney, a conquis à cette occasion la ceinture intercontinentale WBC, une des quatre fédérations internationales dans la catégorie mi-lourd. Un succès qui lui permet désormais de présenter un bilan de 9 victoires pour aucune défaite et surtout d'espérer obtenir une chance pour un titre mondial dans un avenir plus ou moins proche. Mais la fiche de la soirée mettait aux prises Lukáš Konečný, champion intercontinental IBF et WBO chez les Super Walter, au français Mehdi Azri. Un match qui est certes allé au bout des 12 rounds, mais qui a été nettement dominé par le Tchèque. Vainqueur à l'unanimité, au point, ce dernier espère lui aussi bientôt relever un nouveau défi pour une ceinture de champion du monde. De son côté, Mehdi Azri est arrivé à Prague presque par hasard, profitant des forfaits des deux autres boxeurs initialement prévus pour affronter Konečný. À sa sortie du ring, peu avant minuit, nous sommes allés le rencontrer dans son vestiaire avant de l'accompagner au contrôle antidopage. Là, dans les coulisses d'un palais des sports vidé de ses 10 000 spectateurs, Mehdi Azri est tout d'abord revenu sur son combat contre le Tchèque avant d'évoquer, avec ses mots, sa vie de boxeur inconnu ou presque du grand public. Un moment privilégié qui nous a aussi permis de toucher du doigt l'aspect tragique, parfois répulsant mais tellement fascinant du noble art.
Non, sans prétention, c'était pas difficile. En fait, j'avais pas de pression. Hein. Il avait de l'expérience. Moi, j'ai fait un bon jeu défensif. Après, on peut-être me reprocher de pas y être assez allé ou quoi, ou de pas avoir exploité mes possibilités. Mais bon, c'est la boxe. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. J'ai pas voulu prendre de risques et j'ai essayé d'en garder sous la semaine parce que j'avais jamais fait plus que 8 rounds. Mais en tout cas, mon analyse, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait et bon, bah, j'ai un peu les boules de pas avoir gagné. Mais j'ai appris un truc, c'est que dans victoire, il y a défaite. Hein. Ça va ensemble.
Qu'avez-vous pensé de votre adversaire?
Bah, ça va, il est pas mal. Bon, bah, je l'ai senti douter un petit peu à un certain moment. Peut-être pas douter, ralentir. Il essayait de me bluffer avec des coups en bas et tout. Mais non, ça a pas pris. Je manque peut-être un peu de confiance. Bah, c'est le manque de match. J'aurais pu exploiter plus. Mais bon, en France, la boxe n'est pas très bien développée. La boxe professionnelle n'est pas très développée. Donc, j'ai pas eu l'occasion de prendre mes marques. Mais sinon, mon adversaire, bah, ça va.
C'est un combat qui s'était un peu préparé à la dernière minute pour vous. Vous n'étiez pas initialement prévu dans le programme. Est-ce que cela vous a gêné dans votre préparation?
Non. Ce genre de truc, ça, c'est un truc, entre guillemets, de lâche. On m'a fait une proposition. Moi, je suis un homme. Hein. J'ai réfléchi. J'en ai parlé aux gens qui étaient autour de moi. Ils m'ont dit, on en a décidé de le faire. Donc, si j'ai dit oui, c'est que j'étais à 100%. Hein. Ça, c'est... Je me respecte trop pour dire que c'est à cause de ça que j'ai perdu.
On vous a jamais vraiment senti en une grande difficulté, pourtant quand même dominé. Par contre, vous avez eu du mal à mettre en danger votre adversaire quand même.
Bah, je sais pas, parce qu'en fait, je boxais à la touche. Je l'ai beaucoup boxé à la touche en contre-attaque. Je suis resté sur le jeu tactique. J'ai accéléré à la fin. Mais ce qui a fait que j'ai pas accéléré avant, c'est que 12 rounds, ça a été l'inconnu, quoi. Passé 8 rounds, j'étais en territoire inconnu. Donc, la boxe, c'est quand même un sport dangereux. On peut pas se permettre de trop improviser. À côté de ça, dans la vie, j'ai un boulot, j'ai une situation professionnelle. Et pour ce que ça rapporte, je voulais pas trop y aller. Hein. C'est un peu cher payer le neurone. C'est pas très cher payer le neurone.
Qu'avez-vous pensé de l'ambiance autour du combat, ici à Prague?
Oh, c'est cool, ils sont sportifs, hein. Parce qu'ils sont pas de mauvaise foi quand au départ ils l'ont supporté. Ils ont vu que j'étais un boxeur sérieux, que je tenais la route. Et puis bah j'ai l'impression qu'ils m'ont encouragé quand je faisais des bonnes actions. Et je respecte ça, ils ont l'esprit sportif, c'est bien.
Qu'est-ce que ce combat représente pour la suite et la progression de votre carrière?
Bah en fait je sais pas du tout, parce qu'en fait. Vous savez, je me remets à chaque fois qu'on fait un match, enfin souvent, je sais pas si c'est moi, mais à chaque fois que je suis dans le vestiaire, je me demande qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est assez bizarre. Je sais pas. Peut-être j'ai connu le haut niveau. Bon, là, c'était du haut niveau quand même. Bah, j'ai vu un petit peu mon niveau et je sais que maintenant, pour pouvoir évoluer, il va falloir vraiment qu'il y ait un peu plus de moyens, parce que là, je suis un peu livré à moi-même. Donc, je sais pas si c'est. Je vais réfléchir sur la suite de ma carrière. Parce que je voudrais pas prendre des coups pour être champion de France, quoi. Juste pour être champion de France en finalité.
Êtes-vous boxeur professionnel ou vous avez dit que vous aviez une autre activité à côté de ce sport?
Ouais, je suis employé municipal, je travaille avec les enfants à Rueil-Malmaison, dont d'ailleurs je salue tout le monde. Et c'est une ville en fait que j'ai rencontré en fait. Je suis arrivé à Rueil-Malmaison. Quand au niveau de ma carte, ça se passait plus terrible, quoi. J'y croyais plus. Ils m'ont accueilli, ils m'ont remis en confiance, ils m'ont donné une situation, ils m'ont fait montrer qu'il y avait autre chose à part la boxe. Donc je remercie tout le monde là-bas et voilà quoi. J'ai oublié la question. Je viens de faire un match de boxe, hein, c'est voilà.
On imagine que ça va être difficile après une défaite, un tel combat. Comment vous sentez-vous physiquement, mais aussi psychologiquement?
Oh, psychologiquement, ça va. Hein. Vous savez, faut accepter les choses dans la vie. Hein. Ça aide à évoluer. Je pense que c'est une bêtise de rester sur le passé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je regrette rien du tout. Ceux qui peuvent, qui, tous les gens qui vont me dire, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Ce qui aurait été plus simple, c'est qu'ils prennent mes gants et qu'ils y aillent. Non, non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai aucun regret, c'est comme je vous dis, jeudi je vais aller bosser, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content, j'ai fait une belle prestation, les gens sont satisfaits de moi, je pense pas que j'ai été ridicule, donc je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je regrette rien du tout, sincèrement, je pense qu'un homme il accepte son destin et il accepte les choses, bonnes ou mauvaises.
Voilà, c'était le boxeur français Mehdi Azri et c'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention. Tout de suite, place à la musique.
Un peu de musique quand même. Yarka Gisubelova.
Le chansonnier, parolier, guitariste et compositeur des plus populaires, Jaromír Nohavica, vient d'entamer ce dimanche 15 octobre sa tournée Morave par un concert au théâtre Janáček à Brno. Toutes les scènes où il se produira affichent déjà complet.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy horské, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou.
C'était Jaromír Nohavica dans la chanson Ostrava, sa ville natale. Hésitant entre le journalisme et la musique, il opte pour cette dernière à l'âge de ses 17 ans. Il devient très vite célèbre, mais n'échappe pas à l'attention de la censure communiste. Il est interdit de chanter dans des grandes villes. N'empêche qu'en 1982, il gagne l'enquête du chanteur le plus remarqué du festival de la musique country et folk, Porta. Après la révolution de velours, il sort plusieurs albums, le premier au titre, dont C'est un idiot, est un bilan de sa création. En 1993, il excelle avec Mickey Mausolée, nommé l'album de l'année. Un siècle étrange trahit la tristesse dans laquelle Nohavica plonge après avoir surmonté une crise de santé. En voici la litanie à la fin du siècle.
Těch mrtvých mužů v mrtvé trávě, těch sirotků a vdov, té krve k jeho větší slávě, těch slov. Těch bůžků, bohyní a bohů, těch smolnic na ulicích měst, těch proroků na každém rohu, těch gest. Pane můj, na výsostech, pane nejvyšší, pane můj, co pak nevidíš a neslyšíš?
En 2002, le film L'année du diable, avec Jaromír Nohavica dans l'un des rôles principaux, est primé du prix festival du film de Carlo Vivari. Deux ans plus tard, un prix spécial est décerné à Nohavica par l'Académie de musique pour l'ensemble de son œuvre. Une série analogue de concerts qu'il donne actuellement en Moravie, il a donné en janvier dernier à Prague et en été dernier dans sa ville natale, Ostrava. L'album qui en est sorti au titre éloquent Doma, chez moi,
a occupé cette semaine la tête de la hit-parade des albums tchèques les plus vendus. Terminons ce programme en écoutant la chanson « La comète » du film « L'année du diable ». Portez-vous bien et à très bientôt sur Radio Prague.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat, o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on